Session de philosophie de la matière et du vivant à Rimont, le 21 novembre-décembre 1994, par le Père Samuel, deuxième conférence.
On va situer dans la démarche philosophique, dans son ensemble, le moment où on aborde la question de la matière et de la vie. Et puis on essaiera de préciser, au fond, qu'est-ce que l'expérience, quelle est l'expérience dont part le philosophe, quelle expérience nous avons de la matière et de la vie qui nous permettent enfin, qui nous invite à réfléchir, à partir de laquelle le philosophe va interroger. Hein, l'interrogation, elle ne peut pas naître en dehors de l'expérience. Et on va voir que ce n'est pas si simple que ça d'identifier l'expérience dont nous partons. Je vous disais, on part pas d'abord le philosophe ne part pas d'abord d'une réflexion sur la matière ou sur la vie, pas plus d'ailleurs que sur l'être, et encore moins sur Dieu. Pourquoi? Aristote donne une raison toute simple, il dit: commençons par réfléchir sur ce qui est le plus connu pour nous, et ensuite on s'attaquera à ce qui est le moins connu pour nous, même si c'est ce qu'il y a de plus intelligible. Enfin, oui, sur ce qui est le plus. C'est clair que de réfléchir sur la matière et sur la vie, ou sur l'être, ou sur Dieu, on sent bien a priori que ça nous donnera une lumière plus profonde sur l'homme qu'une réflexion plus rudimentaire. D'accord? Et Aristote dit, c'est très bien, c'est sûr que ça nous donnera sûrement une lumière plus grande, mais en attendant, commençons par avoir l'humilité de partir de ce qui est plus facile. Hein, c'est pour ça que la philosophie pratique devance toujours la philosophie dite spéculative. C'est un pas bon terme, hein. Théorétique, ça fait mieux, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire, donc hérétique. C'est la philosophie, c'est la dimension plus contemplative de la philosophie, hein, celle qu'on va le voir qui réfléchit sur la réalité au-delà de l'expérience pratique. Mais ma philosophie, elle commence par l'expérience pratique. Sinon, j'ai tous les risques de partir dans l'idéalisme, si vous voulez. Si je commence par réfléchir là-dessus, je vais émettre des idées qui vont être des a priori, je ne vais pas partir de l'expérience. Donc j'ai besoin de commencer par m'enraciner dans l'expérience pratique. Et vous savez que les deux grandes expériences dont parle le philosophe, c'est l'expérience du travail et de l'art, ce qu'on appelle l'activité artistique, le facere, dans laquelle j'ai déjà toute une expérience de la matière, hein, même de la vie d'ailleurs. Dans l'expérience du travail, on n'a pas le temps de le dégager jusqu'au bout, hein, mais ça serait très intéressant de voir que la plupart du temps, notre première confrontation à la matière, elle a lieu dans le travail. Manuel, hein, c'est sûr, c'est pas sur l'ordinateur. Mais dans le travail manuel, au moins, dans le travail artisanal, dans le travail artistique, je suis confronté à la matière. Je pense à la sculpture, je pense à l'architecture, je pense à la peinture. Et puis, je ne suis pas simplement confronté à la matière, je suis aussi confronté à la vie, quand je travaille sur le chant, sur la danse. Hein, j'aime servir du corps humain qui est un corps vivant. Ce qui n'est pas du tout la même chose que de travailler sur un bloc inerte. Hein, ce n'est pas du tout la même logique. Ou quand c'est la même logique, ce qui arrive de temps en temps, ça donne une déformation complète du sens artistique qu'on peut avoir. Et je crois que c'est important de voir que le premier lieu, j'allais dire, génétiquement, si vous voulez, où d'ailleurs l'enfant expérimente la matière, c'est en jouant. La première expérience de la matière, c'est la chute des corps, quand on est glissé du canapé. Ou quand on a raté la marche, ou quand on. C'est vrai, quand on essaie de se souvenir, enfin on ne s'en souvient pas toujours, mais. Quand on essaie de saisir dans l'ordre génétique de la croissance de l'homme quelle est sa première expérience de la matière, c'est vrai que c'est souvent à travers le jeu. Au travers le. Pas le sport, parce que le sport c'est assez tardif, mais c'est à travers le jeu. C'est à travers la transformation des choses. L'autre expérience. Alors, il faudrait voir jusqu'où va cette expérience de la matière dans l'art. Elle est toujours médiatisée, si vous voulez, cette expérience. Elle est toujours de la matière à travers la forme. L'artiste ne regarde pas la matière pour elle-même. Il regarde la matière pour pouvoir s'en servir. il est capable de l'admirer. Hein. Quand vous regardez un sculpteur ou un tailleur de pierre, vous parlez de son bloc de cailloux, c'est très impressionnant. Quand c'est vraiment de l'amour et du sens de la matière qu'il a. Mais il a un sens de la matière en fonction de ce qu'il veut faire. Hein, et quand il admire sa pierre, c'est parce qu'il sait qu'elle va avoir telle qualité en fonction de ce qu'il a à faire avec elle. Même chose quand un architecte vous parle des matériaux avec lesquels il construit son bâtiment, quand il a vraiment quand c'est des matériaux nobles, il vous en parle en fonction de ce qu'il veut faire, pas pour elle-même. Parce qu'il y a des choses qui, en elles-mêmes, sont tout à fait admirables et qui sont parfaitement inaptes à la construction. Vous avez des cailloux magnifiques, mais qui sont absolument impossibles à tailler tellement ils sont durs. Il y a peu de chances que le tailleur de pierre vous fasse admirer ce caillou-là. Et donc, l'intérêt de l'artisan, si vous voulez, ou de l'artiste, pour la matière, même si génétiquement il joue un rôle très important, il est toujours filtré, si vous voulez, il est toujours modifié par le fait que je m'intéresse à cette matière pour réaliser telle œuvre. C'est vrai d'ailleurs aussi du corps humain, dans le chant, dans la danse, dans le théâtre. Le corps humain est regardé en tant qu'il peut servir à quelque chose. Il n'est pas d'abord regardé, même si ça n'exclut pas évidemment, en tant qu'il appartient à une personne. C'est présent, si vous voulez. Mais, j'allais dire, ce n'est pas l'unique regard. C'est fondamental, et il vaut mieux que ça reste fondamental. L'autre grande expérience, c'est l'expérience de l'autre, l'expérience de l'ami, l'expérience éthique. Dans lequel, si la matière est présente à travers le corps de l'autre, c'est beaucoup plus la question de la vie qui est présente. Pourquoi ? Parce que dans l'art, si vous voulez, indirectement, l'artiste est confronté à son intelligence, à son imagination et à son affectivité. Mais c'est indirect. C'est pas, sauf, c'est vrai, dans le cas, par exemple, de l'acteur. Hein. Celui qui joue, il a quand même à travailler sur le vivant. C'est sans doute, d'ailleurs, un des lieux les plus difficiles, parce qu'il a à travailler sur la matière sur laquelle il travaille, c'est ses passions, c'est son affectivité. En dehors de sa voix. Donc j'allais dire, il a tout avantage à essayer d'y comprendre quelque chose. Pour être capable de mieux, pour le coup, de mieux le maîtriser. Ou plus exactement, de mieux le mettre en œuvre, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'un mauvais acteur est un acteur qui cherche et qui se maîtrise présentement. Alors qu'un bon acteur est un acteur qui sait entrer dans ses passions pour jouer avec elles, ce qui est autre chose. C'est pas la même chose de maîtriser et de jouer, si vous voulez. On ne peut pas faire les deux à la fois. Quand on joue, on ne maîtrise pas, on rentre dans le jeu. On ne peut pas être à la fois le gardien du jeu, enfin oui, on ne peut pas tout faire à la fois. Et les très mauvais acteurs, c'est ceux qui se surveillent. Ou qui se regardent en train de jouer. Il y en a, hein, même des gens très célèbres. Et c'est tout à fait odieux quand on a un peu le sens de ce que c'est clair, parce que c'est esthétique, c'est pas artistique. Et donc c'est vrai que ça demande une connaissance expérimentale de l'affectivité passionnelle, et du lien entre l'affectivité passionnelle et la vie spirituelle. Parce que c'est clair que quand l'artiste a à jouer notamment du tragique, pas du dramatique, parce que quand c'est du psychodramatique, il n'y a pas besoin d'avoir de finalité spirituelle, plus ça boue et mieux on se porte. Mais normalement, le grand art qui a pour finalité de révéler l'intériorité de l'homme dans ce qu'elle a de plus profond, donc dans ce qu'elle a de spirituel, réclame de la part de l'acteur d'être capable de comprendre expérimentalement de l'intérieur le lien entre les passions et telle dimension spirituelle, ce qui n'est pas rien comme travail. Ce qui est même énorme, en fait. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de jouer du psychodrame, si vous voulez, parce que là, ça vient tout seul. Mais le tragique, c'est très difficile, précisément parce que ça réclame, pour pas que ce soit ennuyeux, en plus, parce que s'il n'y a pas de passion, c'est ennuyeux. Ou s'il n'y a pas de spirituel, c'est une caricature du spirituel. Mais pour conduire au spirituel par l'affectif, qui est quand même un des grands travaux de l'art en général, hein, à travers la représentation, et donc la représentation liée à l'affectivité. Mais dans tous les autres arts, c'est présent. Mais c'est présent, j'allais dire, dans le travail de l'artiste sur lui-même, pour réaliser quelque chose, ce qui est spécifique peut-être à l'acteur, ou danseur moins, mais c'est aussi présent. c'est ce travail immédiat sur l'affectivité. Donc vous voyez que déjà aussi dans la philosophie, dans l'activité artistique, je suis confronté au vivant. On ne sait pas ça, par exemple, quand on est une mauvaise humeur, on ne fait pas des bonnes recettes. Philosophie de l'art, ça. Activité artistique. Il faut des conditions de disponibilité suffisantes pour que la réceptivité, si vous voulez, à l'inventivité culinaire soit suffisante. Donc on s'aperçoit que ça réclame une certaine maîtrise de soi ou une certaine connaissance du vivant que l'on est pour être capable de se mettre volontairement dans la disposition intérieure qui va permettre de faire quelque chose de correct. Sinon, si vous voulez, la qualité de la cuisine commune varie en fonction de l'humeur du cuisinier. Ou des cuisiniers. On voit ça aussi quand on conduit une voiture. Il y a beaucoup d'accidents qui sont liés, si vous voulez, à un manque de connaissance du vivant que nous sommes et des passions. C'est clair qu'il y a un lien direct entre second entre l'art et le vivant. Donc, j'allais dire, l'art n'est absolument pas structuré par la connaissance du vivant, mais l'art réclame de la part de l'artiste une réflexivité et une réflexion sur le vivant qu'il est. C'est la différence avec l'éthique. Dans la rencontre de l'autre, là, je suis face à un vivant. Et il s'agit de le connaître pour l'aimer, ou de le connaître pour m'engager à son égard. Or, si l'art et l'inspiration artistique est sélective, l'éthique n'est pas sélective. Dire « je t'ai épousé pour tes beaux yeux », si vous voulez, c'est esthétique, mais ce n'est pas éthique. Pour ce qu'il y avait derrière, c'est possible. Mais je veux dire, l'éthique implique l'accueil, enfin la responsabilité éthique implique l'accueil de l'autre dans tout ce qu'il est, et l'engagement de soi d'ailleurs dans tout ce qu'on est. Et donc, c'est un des lieux dans l'expérience pratique qui réclame le plus rapidement une certaine connaissance du vivant. Je pense à une chose intermédiaire, c'est le sport. Le sport, ce n'est pas franchement de l'art. Mais c'est un des lieux dans lequel la connaissance de la santé fait partie, vous voyez, de la pratique elle-même, dans lequel il y a une connaissance du vivant. C'est pour ça que vous avez 25 000 médecins autour des sportifs. Ce n'est pas beaucoup de médecins autour des artistes. Les médecins, d'ailleurs, les artistes supportent mal les médecins. Parce qu'ils sont prêts, si vous voulez, à aller jusqu'au bout, même un peu trop loin, pourvu qu'ils aient à... Vous voyez, ils sont capables de se lever à n'importe quelle heure, de travailler dans des conditions inimaginables. S'ils sont mus par leur inspiration, vous voyez, ils sont capables de passer à travers tout, même des fois au-delà de ce qu'il faut. C'est très étonnant. Le sportif, ce qui montre bien d'ailleurs que c'est beaucoup moins noble, c'est pas du tout ça. Lui, il a une armada de gens pour surveiller, pour optimiser. On est même capable de vous dire aujourd'hui que le jour où on arrivera à optimiser absolument le capital de vie d'un individu, on arrivera à franchir telle barrière parce qu'en fait, actuellement, il n'utilise pas tout son oxygène parce qu'il cogite trop. Enfin, vous voyez, une fois qu'il sera bien téléguidé par les médecins, il aura des compétences sportives, bien plus le psychologue pour lui remonter le moral comme il faut. Enfin, c'est très impressionnant, je trouve ça. Ce qui montre bien, enfin, c'est pour montrer que là aussi, c'est un des lieux où la question de l'optimisation de la santé du vivant joue. J'exagère un peu, hein, elle joue aussi dans certains cas pour l'art. Un danseur ne peut pas se permettre, vous voyez, de ne pas faire attention à sa santé. Un chanteur non plus. Mais dans le cas de l'éthique, c'est complètement différent. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, la connaissance que je suis invité à avoir et à approfondir de moi-même et de l'autre comme vivant, et pas finalisée par une utilisation. D'une certaine manière, elle est finalisée par elle-même. Je connais l'autre pour l'aimer. C'est-à-dire, je le connais pour... Le connaître pour le connaître et le connaître pour l'aimer, c'est la même chose. L'amour n'est pas une utilisation de la connaissance. La connaissance, elle est interne à l'amour. Vous voyez, je veux dire, elle est... C'est l'amour qui me permet de connaître, et c'est dans la connaissance que j'aime, au-delà d'ailleurs de la connaissance. Mais je ne peux pas être responsable d'une manière humaine ou grandir dans la responsabilité sans grandir dans la connaissance. C'est pas l'intensité, vous voyez, affective des sentiments qui fait la qualité de la responsabilité et de l'amour. La connaissance ne suffit pas, hein. La connaissance de l'autre ne détermine pas mon amour. Je peux connaître très bien quelqu'un sans vouloir l'aimer beaucoup. Mais je ne peux pas durablement et de manière réaliste vouloir aimer quelqu'un sans chercher à le connaître plus. Ça fait partie d'ailleurs des fois des découvertes difficiles. C'est qu'effectivement, on s'imaginait qu'il suffisait d'aimer, qu'il n'y avait pas besoin de se fatiguer pour connaître plus. Alors, du coup, effectivement, on découvre des choses qu'on n'avait pas découvertes avant. C'est là qu'on s'aperçoit que le vivant, c'est complexe. Et on avait identifié l'autre à un sentiment. Ou à un certain type d'attitude. Vous savez, c'est le phénomène de l'idéalisation affective. C'est-à-dire que on prend un élément, on le grossit à la loupe, ça c'est typiquement artistique d'ailleurs. Et puis on ne voit plus que ça. Et on ne voit pas que l'autre, c'est ça et beaucoup d'autres choses. Moins visible, plus pénible, plus complexe, plus compliqué, plus profonde. Enfin, vous voyez, je veux dire. Et donc, c'est clair que, j'allais dire, un des lieux expérimental de la réflexion sur le vivant, c'est l'éthique, c'est l'amour d'amitié. C'est pas fait pour ça. L'autre n'est pas un cobaye, vous voyez, de réflexion philosophique. Mais c'est clair que pour aimer l'autre, pour m'ajuster à l'autre, puisque l'amour implique de se donner à l'autre et donc d'unir sa volonté à la sienne, et d'être progressivement dans une même volonté, donc dans une même manière d'agir. Pas par imitation, mais par complémentarité. Et donc ça réclame une connaissance approfondie du vivant. Parce que cette complémentarité, on cherche à ce qu'elle soit de plus en plus profonde et à ce qu'elle s'étende. Tout simplement pour laisser la personne de l'autre m'enrichir de ce qu'elle est. Et réciproquement. Donc ça implique un ajustement permanent qui implique une connaissance du vivant. C'est aussi un des lieux assez merveilleux dans lequel je découvre qu'il y a un ordre dans le vivant. Qu'il y a un ordre de profondeur, si vous voulez. Que cet ordre de profondeur, ce n'est pas des étages. Enfin, vous reverrez ça avec le père Philippe. Mais il n'y a pas, si vous voulez, le corps et la vie physique, le psychisme. Et puis, en haut, la capsule lunaire qui s'appelle la vie spirituelle. Parce que quand on réfléchit, vous verrez, quand on réfléchit sur le vivant, c'est facilement le schéma qu'on se fait. Hein. En haut, il y a la vie spirituelle. Ensuite, au milieu, il y a la vie affective, psychique, psychologique. Et puis, il y a la base, si vous voulez, c'est la nutrition, la génération. C'est vraiment ce qui est basique, si vous voulez. C'est ce dont on s'occupe quand on est vraiment obligé. Ou quand on est vraiment régressif, c'est-à-dire qu'on n'a plus de vie spirituelle, mais la vie affective ne nous intéresse même plus et qu'on n'est plus que du côté de la vie végétative. On mange, on dort. Bon, ça c'est caricatural, et l'éthique est un des lieux magnifiques qui me montre que ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Et souvent d'ailleurs, on fait une mauvaise philosophie du vivant quand on n'a pas cet intérêt, j'allais dire, pour l'autre, et qu'on réduit l'autre, vous voyez, un petit schéma facile. On s'aperçoit que ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Que la vie spirituelle, non seulement, si elle est la vie la plus intérieure, elle est aussi la vie la plus fondamentale. Et au sens strict, elle ne va jusqu'au bout d'elle-même, notamment dans l'ordre de l'amour, qu'en assumant les deux autres, qu'en intégrant les deux autres. Un amour qui ne se manifeste pas dans des actes concrets et visibles est un amour qui ne va pas jusqu'au bout. C'est clair. Et le fait qu'il soit visible n'est pas simplement un petit truc facultatif en plus. C'est pas ça qui fait que l'autre aime que ce soit visible. Parce que la question est de savoir si c'est l'affectivité qui est visible ou si c'est l'amour spirituel qui est visible. Et c'est ça qui est complexe. Parce qu'on s'aperçoit que c'est complexe que le choix intérieur spirituel, personnel, se rende visible à travers les passions et jusqu'à travers le comportement visible concret. Les gestes, si vous voulez, les engagements concrets, la manière d'organiser son temps, de réduire son sommeil, enfin, vous voyez, des choses qui touchent même la vie végétative. La manière d'utiliser, de tenir compte de sa santé est un des lieux magnifiques où on manifeste à l'autre le fait qu'on s'engage vraiment à son égard. Si je m'engage à l'autre, mais pas question de grignoter sur ma dose de sommeil, ni sur ma dose de nutrition nécessaire, c'est-à-dire qu'au fond, j'ai mon territoire et t'es là en plus. Donc on s'aperçoit que ce n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que, et en même temps, on ne peut pas dire que l'amour peut permettre de réduire la vie végétative à rien du tout. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, ce n'est pas vrai, il faut aussi manger. Donc ça, c'est un des lieux où, j'allais dire, si le travail est plus le lieu d'abord de l'expérience de la matière à travers la forme, et l'expérience, j'allais dire, de l'affectivité et de l'intelligence surtout, hein, chez l'artiste, pas tellement de la volonté. Parce que la volonté chez l'artiste, elle est très 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 motivée par la créativité. Donc elle n'est pas très très enracinée précisément dans la volonté. C'est une volonté très liée à l'intelligence, la volonté de l'artiste. La preuve d'ailleurs, quand vous lui demandez des efforts éthiques, zéro. Se lever à des heures pas possibles pour créer, oui. Mais quand il faut se lever un peu plus tôt pour aller s'occuper de l'enfant qui pleure, ça n'a pas question. Vous avez, on connaît tous des artistes qui ont une volonté de faire quand il s'agit de la création et aucune capacité à la responsabilité personnelle. Zéro. Ils sont d'une irresponsabilité notoire. Ça ne les empêche pas d'être géniaux, artistiquement. C'est plus difficile pour être des artistes chrétiens. Parce que ça, je pense que ce n'est pas possible. Être un irresponsable notoire, ça ne permet pas de faire de l'art chrétien. Mais même d'ailleurs, franchir un certain degré d'art, il faut aussi qu'il y ait quand même une certaine qualité éthique. Mais c'est pour dire que ce n'est pas le même type, enfin, c'est pas le même usage de la volonté. Je ne crois pas que l'art fasse beaucoup découvrir ce que c'est que la volonté. Alors que l'éthique fait découvrir ce que c'est que l'engagement. Et le fait que la volonté, le choix de l'autre, le choix volontaire de l'autre, c'est tout autre chose que le choix de l'artiste. Et que c'est une manière, que le choix, donc l'engagement de la volonté, est une manière de se rendre présent. C'est très impressionnant de, vous le reverrez puisque le père Philippe vous développera la philosophie du vivant, il faut toujours avoir en arrière-fond l'expérience qu'on a de l'autre. Sinon, la volonté, c'est une espèce de chose abstraite, dont on se fait une vague idée, dont on sait surtout qu'on n'en a pas beaucoup, et puis on ne l'identifie pas. C'est vrai de l'intelligence, c'est vrai de la mémoire, c'est vrai de l'imagination. C'est plus facile d'identifier ces expériences-là. D'accord ? Le travail, c'est facile à identifier. L'aspect éthique de notre vie, c'est aussi relativement facile à identifier. Il y en a une troisième, hein. Expérience, c'est l'expérience de la communauté. C'est l'expérience politique. C'est l'expérience d'avoir à coopérer, de la coopération avec plusieurs. C'est l'expérience de la justice aussi. Alors, c'est vrai que l'expérience de la communauté me donne aussi l'expérience du vivant. Vous savez, c'est Cicéron qui disait « Chaque sénateur est intelligent, mais le Sénat est bête. » C'est une bonne expérience de philosophie du vivant, ça. C'est que bizarrement, en communauté, c'est pas nécessairement la qualité de l'individu, c'est pas l'addition des qualités des individus qui se produit, si vous voulez. C'est d'abord, malheureusement, l'addition des défauts. C'est que les inerties vitales s'accumulent dans une communauté. Et qu'il faut beaucoup d'intelligence pour que les compétences se coordonnent. C'est aussi un lieu très important de l'expérience du vivant, la communauté. C'est là qu'on s'aperçoit que la quantité, ça joue. Bizarrement, même dans les domaines éthiques. C'est quand même lamentable, si vous voulez. Ça ne devrait pas jouer, la quantité. Mais si, on s'aperçoit dans l'expérience de la communauté que même le phénomène quantitatif, ça joue. Vous voyez que par exemple, la communauté, si l'individu est relativement autonome par rapport à son conditionnement quand il est seul, il est beaucoup plus dépendant de son conditionnement quand il est plusieurs. Quelqu'un qui a un peu d'autonomie, si vous voulez, l'atmosphère des lieux, des choses, du temps, des endroits dans lesquels il se trouve, il dépasse complètement. La communauté a beaucoup plus de mal à dépasser l'atmosphère. Il y a une mauvaise ambiance. Pas commode, facile à dire qu'il faut le dépasser. Quand on est seul, c'est très facile. Mais quand vous avez 40 personnes qui sont dans la mauvaise ambiance, vous pouvez toujours essayer, c'est beaucoup plus difficile à dépasser. Les phénomènes de vie collective, que des choses analogues avec les animaux d'ailleurs, c'est très intéressant d'observer comment les troupeaux, les animaux qui vivent ensemble, perçoit qu'il y a des liens communs. Et ça permet de mieux voir d'ailleurs la dimension proprement spirituelle de la vie communautaire. De ne pas limiter la vie communautaire à une organisation, si vous voulez, bien huilée, ce que les fourmis et les abeilles en font autant. C'est pas facile hein, de saisir en profondeur l'originalité humaine de la vie communautaire. Donc la communauté est un lieu, c'est aussi un lieu dans lequel, d'ailleurs, dans lequel on expérimente comment le conditionnement humain, puisque la communauté c'est ça qu'elle prend beaucoup en compte. Hein. La communauté elle est là, dit Aristote, pour permettre à l'homme de ne pas se contenter simplement de vivre, mais de bien vivre. Donc elle est là pour que le conditionnement soit au service de sa finalité. C'est-à-dire que l'environnement, que le monde matériel, le monde des biens matériels et sensibles dans lequel il vit, soit au service de son bien personnel. C'est ça le rôle de la politique, du politique. C'est d'organiser l'environnement de l'homme, le conditionnement de l'homme, pour lui permettre d'atteindre plus facilement sa finalité. C'est très simple. Si tous les jours vous avez à aller parcourir des dizaines et des dizaines de kilomètres pour trouver à manger, il y a peu de chances que vous ayez beaucoup de temps pour faire oraison. Ou simplement pour avoir le temps de vivre d'une manière un peu qualitative. Donc le rôle, j'allais dire, de la communauté est de permettre de mettre en commun les biens matériels qui vont permettre à chacun d'atteindre sa finalité personnelle. D'accord ? Et donc la communauté politique, j'allais dire l'intelligence politique, découvre le lien qu'il y a entre la matière et le conditionnement. Comment est-ce que le conditionnement fondamental, c'est la matière ? Vous pouvez organiser une magnifique ordination sacerdotale. Manque de chance, vous avez oublié qu'il pourrait pleuvoir. Et vous vous faites saucer jusqu'aux os. Alors, parce que vous êtes face à des enfants de Dieu, la vie théologale permet de transcender tout ça. Mais s'il n'y avait pas la grâce, rien du tout. C'est bête l'eau. Ça n'a jamais tué personne, l'eau. Ça peut vous neutraliser complètement l'intensité de prière d'une foule entière. Heureusement, encore une fois, l'Esprit Saint compense. Donc il peut se permettre des choses comme ça. Mais c'est impressionnant de voir comment... C'est la même chose dans les embouteillages. Pur conditionnement que d'être bloqué dans un embouteillage. C'est purement matériel, c'est une question de volume, d'espace et de fluidité. C'est de la mécanique des fluides. Parce que vous savez que c'est avec exactement la même mécanique que les fluides, des fluides qu'on gère les embouteillages et la circulation dans Paris. Comme la purée avec des grumeaux plus ou moins gros. C'est ça la mécanique des fluides. Ben, le calcul des feux à Paris, vous avez remarqué qu'ils ne sont pas toujours de la même durée, sont faits en fonction de ça. C'est purement du conditionnement d'embouteillage. C'est impressionnant comme ça peut déterminer, vous voyez, la qualité spirituelle d'abandon intérieur. Ce qui montre bien, le phénomène communautaire m'oblige à voir que la matière est un des lieux, qu'il est important d'étudier la matière pour comprendre le conditionnement fondamental de l'homme. Donc, vous voyez, l'artiste aborde la matière du côté de sa qualité. Et l'homme politique aborde la matière du côté du conditionnement fondamental qu'elle constitue pour l'homme. Et je comprends même que la matière est ce qui conditionne fondamentalement la vie. C'est un des lieux déjà où je l'expérimente, ça, la communauté. Une autre expérience, hein, c'est une expérience qui est entre l'éthique et la communauté, c'est la naissance, c'est l'enfant. Dans les premiers mois, les premiers jours, les premières semaines et les premiers mois, la dépendance de l'enfant vis-à-vis de la matière est quand même extrêmement impressionnante. Son autonomie vitale, elle est très minime, mais le rôle précisément de ceux qui sont là, c'est d'abord de permettre que la matière qui va lui permettre de grandir dans son autonomie soit là. C'est de créer un conditionnement matériel qui le protège, qui le nourrisse et qui lui permette de grandir. Vous voyez, j'allais dire, je crois que c'est important de voir... Comment, avant qu'on se pose la question de la matière pour elle-même, hein, comme celle de la vie, on voit tous les lieux d'enracinement de la question dans les expériences pratiques. Sinon, ça risque d'être abstrait au sens négatif, si vous voulez. C'est-à-dire que ça risque d'être un peu imaginatif, pour être clair. Alors que le travail du philosophe va être, je vous le disais tout à l'heure, de repérer l'expérience. Donc là, on voit bien les expériences. Déjà, l'expérience éthique, ça demande déjà un peu de temps pour la mettre en lumière. L'art, c'est facile, ou le travail, parce que ça se délimite au point de vue descriptif de manière facile. L'éthique, c'est plus difficile, hein, à décrire. C'est plus intérieur, donc c'est plus difficile de préciser exactement ce que c'est que l'expérience éthique. L'expérience de la communauté, j'allais dire, c'est les deux. À la fois, c'est très facile, à la fois, c'est très difficile. C'est très facile parce que quand on est dedans, on voit bien le problème. Ce qui est très difficile, c'est d'être lucide. C'est-à-dire, c'est de prendre suffisamment de recul pour que ça devienne une expérience qualitative. C'est pas facile, si vous voulez, de ne plus simplement subir la communauté, mais d'être capable de la regarder d'une manière lucide. C'est d'autant plus difficile qu'on en fait partie. Et que quand on n'en fait pas partie, on ne peut pas la regarder. Quand vous ne faites pas partie d'une communauté, vous ne pouvez pas réfléchir dessus. ça ne se comprend évidemment que de l'intérieur, l'expérience politique. C'est que dans la coopération que je comprends la communauté. Donc si je ne coopère pas, je ne peux pas la comprendre. Et le problème, c'est que quand je coopère, je suis dedans, et du coup, ce n'est pas facile d'être dedans tout en prenant du recul. C'est vrai pour la famille, c'est vrai pour la paroisse, c'est vrai pour les foyers de l'Arche, c'est vrai pour les communautés religieuses, c'est vrai pour tout. C'est même vrai pour l'Église. Parce que le Concile Vatican II dit, il est temps d'essayer de faire un effort, à la fois tout en étendant, pour réfléchir intelligemment dessus. Il faudrait le développer, hein. Vous voyez, ça c'est pour vous donner les pistes de travail. Il faudrait prendre le temps d'identifier, notamment du côté de l'art, on y reviendra, hein, mais je pense que il y aurait déjà un travail à faire à ce niveau-là. Comme du côté éthique. C'est vrai, un des lieux, j'en ai pas parlé, mais du côté éthique qui est quand même aussi extrêmement impressionnant. Comme expérience de la vie et de la matière, c'est la mort. La mort de l'ami est quand même une expérience extrêmement marquante, dans laquelle je vois bien que la matière conditionne fondamentalement là aussi la vie. Et que la matière, comme telle, ne va pas dans le sens de la vie. Et c'est très impressionnant de voir la précarité de la vie. En même temps qu'on découvre la force de la vie du côté spirituel. C'est pas quand même extrêmement fort. Surtout que ça détermine mon attitude éthique. Je n'ai pas la même attitude morale, enfin, je n'ai pas la même responsabilité et je n'ai pas le même choix de responsabilité à l'égard de la mort de l'ami selon ce que je comprends de la vie. Si je considère que la vie, elle est essentiellement liée à la matière et donc que la mort, c'est au fond la disparition de la vie, point la ligne. Je n'ai absolument pas la même attitude ni à l'égard de l'ami mourant, ni à l'égard de l'ami mort que si je considère que le corps, c'est rien du tout et qu'au fond, le brave, il est libéré, donc autant que ça se passe vite. Que si je considère que, vous voyez, que si j'ai un regard dans lequel, bah précisément, c'est pas si simple que ça. Et que même s'il y a quelque chose en lui qui transcende la matière, c'est bien lui quand même. Vous voyez, je crois que c'est très important, là, de voir que certaines de nos attitudes éthiques très concrètes sont déterminées par nos a priori, hein. Et l'Esprit Saint, alors vous me direz l'Esprit Saint, mais l'Esprit Saint, il fait ce qu'il peut, parce qu'il joue aussi avec mes a priori. Donc, quand ils sont trop massifs, mes a priori, il ne peut pas. Vous voyez, c'est impressionnant, là, de voir, ça fait partie de ces lieux. Bon, on aurait pu citer tous les exemples de la médecine, hein. Tous les actes médicaux qui sont posés ne sont pas du tout les mêmes, j'allais dire, du côté de la responsabilité personnelle avec laquelle s'engage celui qui les pose, selon le regard qu'il a sur le vivant. Parce que c'est de l'art, hein. C'est du facere, mais c'est du facere qui est inséparable de l'éthique, la médecine. Et même dans certains cas, de l'élément communautaire, du bien commun. Un problème du don des organes, c'est ça. Pas simple. Et c'est des choses sur lesquelles il faut se garder d'avoir des idées trop simplistes. C'est pas facile de savoir, vous voyez, en quoi mon corps appartient à la communauté. Est-ce que la communauté a un droit sur mon corps, pour le bien d'autrui? Pas simple, ça. Ou est-ce qu'à l'inverse, elle n'a aucun droit et elle ne peut jamais en avoir? C'est des questions. Ça, c'est des questions qui déterminent des lois. Hein. Je vous signale, le problème du don d'organes, il est lié à ça. Est-ce que si vous ne faites pas une déposition comme quoi vous ne voulez pas qu'on donne votre corps, est-ce que l'État a le droit d'utiliser votre corps si vous n'avez pas émis de réserve et si votre famille n'émet pas de réserve? C'est des questions. C'est toutes les questions de bioéthique qui ont été votées, hein. C'est quelle est la disponibilité, quel droit la personne a sur son corps, quel droit les autres ont sur le corps de la personne, quel droit le médecin a sur le corps du patient, quel droit la communauté pour le bien commun a-t-il sur le corps. Donc, vous voyez, toutes ces questions-là qui sont des questions politiques et médicales, donc j'allais dire à la fois qui touchent l'art et l'éthique, ben, comment je les résous? Alors, vous voyez, ça, c'est les situations, j'allais dire, c'est les situations limites qui m'obligent, qui me renvoient à mes expériences. Mais évidemment, ce n'est pas à partir des situations limites que je réfléchis. Hein, le philosophe, il est provoqué par les situations limites, mais ce n'est pas là-dessus qu'il réfléchit. Tant que je ne sais pas ce que c'est que le corps humain, tant que je ne sais pas ce que c'est que le corps dans le vivant, tant que je n'ai pas réfléchi sur ce que c'est, enfin, tant que je n'ai pas découvert, il ne suffit pas de réfléchir, tant que je n'ai pas découvert le lien entre le corps et la communauté, je ne peux pas porter un jugement là-dessus qui soit autre que provisoire et pour une part nécessairement aléatoire. Alors c'est impressionnant parce que quand vous regardez comment est-ce qu'on a, on a voté et réfléchi dans les lois de bioéthique, c'est l'inverse qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, il serait normal qu'on puisse permettre ça, mais il ne faut quand même pas qu'on puisse permettre ça, comme ça, au jugé, si vous voulez, sans doute d'ailleurs avec un certain bon sens. Et en fonction de ça, on a défini les choses. Parce que ce n'est pas facile, je veux dire, d'autant plus qu'on n'arrive pas, il faut arriver à un regard suffisamment approfondi pour que ça puisse permettre de poser une loi. Et ce n'est pas commode. Mais réfléchissez deux minutes, vous verrez que ce n'est pas facile d'avoir un jugement qui soit suffisamment précis pour que ça permette, vous voyez, de formuler, de formaliser la chose dans une loi. D'ailleurs, la question est, est-ce que dans bien des cas, le seul moyen n'est pas de le remettre au jugement de quelqu'un qui a un regard suffisamment fin? Vous voyez, c'est une question annexe, ça. Est-ce qu'on peut, dans ces cas-là, peut-on formaliser les choses? Ou bien doit-on toujours renvoyer à un jugement prudentiel qui est personnel? Autrement dit, pour parler autrement, peut-on définir le corps humain d'une manière suffisante qu'on puisse légiférer sur lui? Peut-on prétendre définir la personne humaine de manière suffisante pour qu'on puisse légiférer sur elle? Tout ça, c'est des questions qui sont derrière. Ou bien ne légifère-t-on sur la personne humaine et sur le corps humain que sous une forme négative, c'est-à-dire en acceptant que le législateur ne peut pas se prononcer sur ce que c'est. Par contre, avouant son ignorance, il est obligé de protéger ce qu'il ne sait pas. Oui, c'est des questions pas simples. Et c'est très intéressant d'entendre un juriste, vous voyez, réclamer du philosophe un travail et de lui dire, mais écoutez, nous, on ne peut pas avancer. Tant que vous n'avancez pas, vous ne précisez pas, vous n'êtes pas capable de préciser suffisamment ce que c'est que le corps. Alors, vous voyez, quand le dialogue philosophique, ça consiste à prendre un philosophe, des philosophes qui ont des idées parfaitement différentes et de faire le plus petit dénominateur commun, bon, ça s'appelle le comité d'éthique nationale. Non, vous riez, mais c'est le problème. C'est ce que c'est que le comité, parce que puisqu'on est dans un régime pluraliste, il faut respecter tout le monde, donc on prend des opinions diamétralement opposées et on essaye de voir quelle est l'opinion sur laquelle à peu près tout le monde va être d'accord. Ce qui, par définition, sera tout sauf un jugement de sagesse. Or, le législateur, surtout dans ces matières-là, a besoin au moins d'un jugement de sagesse. Ce que dit Aristote. L'intelligence de l'homme politique confine à la sagesse. Et il dit, l'intelligence du législateur est nécessairement une intelligence de sagesse. Que l'homme politique n'a pas besoin d'être aussi sage que le législateur. Parce qu'il a le législateur comme béquille qui vient lui rappeler que... Maintenant, quand j'essaye de voir par quel biais je pourrais réfléchir sur la matière pour elle-même, là, indépendamment du regard que m'a donné sur elle la philosophie de l'art, la philosophie éthique, la philosophie de la médecine aussi, qui est une réflexion philosophique spécifique, qui s'enracine, qui s'appuie sur la philosophie de l'art, sur la philosophie politique et sur la philosophie éthique. Donc autrement dit, comment réfléchir sur la matière en dépassant les expériences particulières que j'en ai, mais en m'appuyant sur elles. Donc vous voyez, tout le travail, il est là. Et pour moi, la première question, c'est y a-t-il des expériences qui m'oblige plus nettement que d'autres à sortir de cette particularité de mon regard. Donc vous voyez, hein, certaines questions, comme celle de la bioéthique, qui se posent à l'intérieur de l'expérience pratique, me réclament d'en sortir de l'expérience pratique pour pouvoir y revenir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est ça le travail de la philosophie et de la sagesse. Hein. C'est que je vais passer par les réflexions sur la matière et la réflexion sur la vie pour pouvoir résoudre des problèmes pratiques. La philosophie pratique aboutit toujours à la constatation qu'il est nécessaire pour certains problèmes posés à l'homme du point de vue concret de passer par la philosophie contemplative. Et que je ne peux pas résoudre les problèmes au niveau pratique. Vous voyez, je veux dire, il ne faut pas considérer que l'activité artistique comme l'activité éthique sont tellement autonomes qu'elles se suffisent à elles-mêmes. C'est pas vrai, il ne suffit pas d'aimer pour savoir ce qu'il faut faire dans certains cas. Vous pouvez aimer tout ce que vous voudrez, et ça ne suffit pas de comprendre l'autre, j'allais dire, juste ce qu'il faut pour l'aimer. Non, il faut une démarche, une réflexion de sagesse suffisante pour pouvoir poser un acte concret sur l'autre. Mais je crois que c'est important de voir que c'est ça qui est très beau d'ailleurs, hein, c'est que c'est ce qu'avait très bien pigé Socrate, hein, c'est le problème pratique qui m'oblige à entrer dans une philosophie contemplative pour pouvoir ultimement, dans un regard de sagesse, revenir sur la question pratique. Mais la difficulté, et elle est là, hein, c'est de précisément d'entrer dans une démarche qui se libère, j'allais dire, des motivations affectives, vous voyez, du contexte dont elles viennent. Pas commode, ça. Parce que pour ne pas avoir en arrière-pensée le désir de justifier ce qu'on voudrait pouvoir faire, ou le désir de justifier la caste à laquelle on appartient. Enfin, vous voyez, je pense même à des questions par rapport à l'Église. Comment comprendre l'enseignement de l'Église? Si vous cherchez à le comprendre en le justifiant avant même d'y réfléchir, c'est sûr que c'est mal parti. Ça peut vous éclairer du côté pratique, mais ça ne vous permet pas de le comprendre. Ce qui d'ailleurs vous permet du coup pas très bien de le vivre. Mais pour le comprendre, il faut avoir le courage de l'aborder pour ce qu'il est, pour sa part philosophique. Hein. Pour lui-même, c'est-à-dire en cherchant. Et puis on verra bien. Si ma rigueur de recherche de vérité est réelle, je devrais réussir à retrouver et à redécouvrir ce que l'Église me dit. Mais si je passe simplement mon temps à vouloir justifier ce qu'elle dit, je ne découvre rien. Et c'est pas commode. Au risque de pouvoir dire, bah écoutez, là je ne comprends plus. Parce que, partant de l'expérience humaine, je ne comprends plus pourquoi on me dit ça. Alors tout ce qu'il faut que ça soit, oui, si c'est respectueux, c'est pas gênant, si on cherche la vérité ensemble. Mais je crois que c'est très important de voir, c'est ça l'enjeu de la philosophie spéculative. Hein, et la recherche de vérité au sens strict, elle commence quand j'accepte d'entrer dans cette démarche-là. Alors là, on va le faire sur la matière. Donc on essaiera de voir quelles sont les expériences pratiques qui, au fond, dont on va voir qu'elles sont ni tout à fait éthiques, ni tout à fait artistiques, qui m'obligent au fond, qui me permettent de poser les questions qui vont me permettre de réfléchir sur la matière. Donc réfléchissez quels sont les moments, les expériences que vous avez de la matière pour elle-même, indépendamment d'un souci artistique ou d'un souci d'utilisation. D'accord ? La vie, c'est facile parce qu'il y a des vivants partout. Comme la vie d'ailleurs. Vous voyez, quelles sont les expériences qui obligent à se poser la question de la vie pour elle-même et qui me permettent de réfléchir sur la vie pour elle-même, indépendamment d'un but éthique ou artistique ou politique. D'accord, c'est là-dessus qu'on commencera à travailler cet après-midi.